Paul Valadier, vous êtes jésuite, ancien professeur de philosophie morale et politique au Centre Sèvres à Paris, doyen de la faculté de philosophie au Centre Sèvres, rédacteur en chef de la revue Études dans les années 81-89, enseignant aussi à sciences politiques, actuel directeur des archives de philosophie. Dans tout ce parcours, Paul Valadier, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui vous a le plus nourri?
Écoutez, quand on regarde sa vie, la fin du XXe siècle, c'est une période tout à fait passionnante et agitée. Et donc, il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé. Mais je dirais par priorité, ce qui m'a toujours intéressé et qui est un peu une de mes raisons de ma vocation à la compagnie, c'est le travail intellectuel. Parce que je trouve que, souvent dans l'Église de France en particulier, on a un peu peur du travail intellectuel, on s'en méfie peut-être pour des raisons historiques, et je crois à l'inverse que c'est tout de même quelque chose de tout à fait essentiel, et cette période que nous avons vécue a été tout de même une période de très grande vitalité intellectuelle, malheureusement très souvent en dehors de l'Église, mais aussi dans l'Église, et donc je dirais ce qui m'a toujours suivi dans l'enseignement, comme dans la direction de revue, comme dans l'écriture, c'est ce souci du travail intellectuel qui soit en prise, autant que faire se peut, avec la pensée contemporaine, parce que c'est pas la peine de parler à des absents, et ils vont mieux tenter de se situer par rapport à ceux qui aujourd'hui nous disent des choses quelquefois contestables, mais souvent passionnantes, et dont un croyant peut tout à fait faire son beurre, si j'ose dire.
Dans votre vocation de jésuite, Paul Valadier, vous avez été tenté tout de suite par cet aspect-là, où il y a eu l'appel que vous avez reçu à entrer plus particulièrement chez les jésuites?
Non, je crois que j'étais assez vite séduit par cet aspect, parce que j'avais connu de grands jésuites qui avaient fait un travail intellectuel important. Et je dois dire que je n'ai pas été déçu, parce que au cours de notre formation, notamment dans la maison de Chantilly, nous avions une équipe de professeurs absolument remarquables qui nous ont initiés bien avant ce qu'on faisait en Sorbonne à des auteurs comme Kant, Hegel, Heidegger et d'autres. Et donc j'ai été tout à fait passionné par ce travail et compris là à quel point la pensée chrétienne gagne à se confronter à des pensées qui ne lui sont pas nécessairement hostiles, mais qui permettent de nourrir la foi chrétienne. Donc je dirais que ça m'a toujours beaucoup, beaucoup passionné, avec les difficultés qu'on connaît du travail intellectuel, parce que c'est un travail austère, c'est un travail qui ne paye pas, si je puis dire, c'est un travail solitaire qui connaît quand même beaucoup de passages à vide.
Est-ce que c'est de là que vient le sujet de votre thèse, Nietzsche et la critique du christianisme ?
Certainement un peu, ça date des années 70, à une époque où l'on découvrait Nietzsche, en général en Europe, en particulier en France. Or, la tradition intellectuelle dans la Compagnie de Jésus en France est plutôt hegelienne, et nous ignorions totalement la pensée de Nietzsche, et or on découvrait à quel point cette pensée, et je crois que ça ne fait que se confirmer, a été absolument capitale. Donc les supérieurs et d'autres ont pensé que ça n'était pas mauvais que l'un d'entre nous travaille plus particulièrement cet auteur. Et donc c'est pour ça que je me suis lancé un peu seul dans ce travail qui m'a de plus en plus passionné, parce que Nietzsche est un auteur tout à fait insupportable par ses excès. Et puis quand on passe par-dessus ses excès, on s'aperçoit qu'on a affaire à un homme très, très profond, très authentique, et qui pose des questions fondamentales, qui l'ont d'ailleurs lui-même brisé.
Il y a dans les nombreux ouvrages que vous avez écrits le titre d'un ouvrage qui s'appelle « La condition chrétienne ». Expliquez-nous, pour vous, Paul Valadier, qu'est-ce que la condition chrétienne ?
Difficile à dire en deux mots. C'est-à-dire, je crois que la vocation chrétienne, elle se branche essentiellement sur notre vocation humaine, que la vie chrétienne, c'est une certaine façon de vivre dans l'esprit du Christ notre condition humaine. Donc il ne s'agit pas de croire que l'esprit nous donne tous les éléments de notre vie, nous les recevons de notre culture, ne serait-ce que le langage, nos mœurs, nos façons de parler, nos façons de penser, et tout ceci doit être pris dans l'esprit du Christ. Et la condition chrétienne, je dirais, c'est de mettre sa condition humaine telle qu'elle est, d'homme ou de femme, vivant dans tel ou tel pays, à telle ou telle époque, sous la vérité de l'esprit. Et donc c'est un travail permanent, on n'est pas chrétien, on tâche dans le devenir autant qu'on peut, dans ses amitiés, dans ses amours, dans son travail intellectuel, dans sa prière, dans la découverte de la beauté.
Aujourd'hui, cette condition d'être chrétien, chrétienne, à quels enjeux est-elle confrontée?
La condition chrétienne a toujours été difficile. Il ne faut pas s'imaginer que les chrétiens, je ne sais pas, au Moyen-Âge, vivaient avec facilité leur christianisme. Et que dire de l'époque des guerres de religion, s'il était tellement facile d'être un fidèle du Christ au XVIe ou XVIIe siècle. Donc nous avons des difficultés considérables, mais je crois que ces difficultés sont des défis tout à fait passionnants. Donc cette condition chrétienne aujourd'hui, ou la vie chrétienne de chacun de nous, elle est confrontée quand même à des sociétés qui sont soit indifférentes, soit dans le rejet de la tradition chrétienne, et qui n'ont plus beaucoup de boussole. Donc il me semble qu'un des rôles des chrétiens, ce n'est pas de rêver d'une nouvelle chrétienté, c'est d'aider ces sociétés à ne pas désespérer. Je crois que la grande tentation, c'est celle du nihilisme, du désespoir. Il me semble qu'un des rôles des chrétiens, c'est précisément de dire non, nous ne pouvons pas désespérer, car la foi chrétienne nous ouvre un avenir. C'est à nous de découvrir en travaillant ensemble, en réfléchissant, en nous confrontant à des problèmes difficiles, de trouver des voies qui nous permettent d'assurer à tous, au maximum, une vie sereine et heureuse, une vie bénéfique et bonne à vivre.
Parmi vos sujets aussi de prédilection, il y a l'histoire. Et vous posez en général cette question, la question du christianisme est-elle porteuse de l'histoire?
Oui, parce qu'aujourd'hui, on désespère de l'histoire. Hein, après ce qu'on appelle quelquefois la fin des grands récits, c'est-à-dire la fin, en gros, des espérances messianiques marxistes, il est convenu de dire il n'y a pas d'histoire, l'histoire n'est qu'un chaos, et donc aménageons le présent sans aucune perspective. Moi je crois précisément que les chrétiens sont des rares, peut-être avec les juifs aussi, à tenir l'idée qu'il y a un grand récit. Parce que chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous disons jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, comme chrétiens, nous attendons l'avenue du royaume de Dieu. Donc, nous devons croire qu'à travers les chaos de ce monde, à travers les violences que nous connaissons, il y a des choses qui naissent et qui surgissent. Vous voyez, dans les attentats qu'on a connus à Paris, on parle de ceux des assassins. Mais on ne parle pas de toutes ces personnes, les pompiers, les infirmiers, les médecins, les voisins. C'est un effort formidable, et tu aurais pu dire tant pis pour eux. Or, on a manifesté là, je dirais, une espèce de solidarité et d'indignation collective qui me semble tout à fait remarquable. Et donc, on peut voir d'un côté, évidemment, les assassins, mais si on retourne la médaille, on peut voir derrière beaucoup de dévouements discrets, secrets, qui ne font pas, évidemment, en général, la une des journaux. Et il me semble qu'un regard de foi doit voir les deux.
Vous parliez tout à l'heure du désespoir, de la tentation du désespoir, et quand vous parlez du christianisme, vous dites « le christianisme est porteur d'espérance ».
Je le crois, oui. Nous attendons l'avènement d'un royaume que, à notre petite mesure, nous essayons de préparer. Et je dirais qu'on prépare déjà par le seul fait que nous ne renonçons pas, que nous ne disons pas « tout est perdu ». Mais nous pouvons tenter de trouver des moyens qui nous permettraient d'espérer, et permettraient pas seulement aux chrétiens, mais à la plupart des hommes d'espérer. Et je crois que la foi chrétienne, de ce point de vue-là, est un support tout à fait remarquable de liberté qui les encourage à ne pas tomber dans le nihilisme et le désespoir.
Il y a aussi parmi vos sujets de prédilection la politique et le christianisme. La conception chrétienne, quelle est-elle entre le rapport entre religion et politique ?
Eh bien, je crois que le christianisme, nous le voyons, je dirais presque mieux de jour en jour, apporte quelque chose d'essentiel qui est la distinction entre le royaume de Dieu et les royaumes des hommes, entre le spirituel et le temporel, disons entre l'Église et l'État. Cette fameuse distinction que ne connaît ni le judaïsme, il faut bien le dire, et encore moins l'islam. Et je crois que cette distinction qui a pris la forme de la laïcité chez nous, avec toutes les ambiguïtés qu'on peut voir, cette distinction est absolument essentielle, et pour le politique, qu'elle libère de s'occuper de notre salut, elle a déjà assez à faire la politique à gérer les choses humaines, et libère l'Église de ne pas prendre en charge en tant que telle les choses de la cité, pour rappeler ce que je disais tout à l'heure, l'urgence du royaume de Dieu et sa présence y est maintenant. Donc je crois que c'est une formule chrétienne tout à fait libératrice, et du politique, et du religieux. Et on voit bien d'ailleurs les effets tout à fait néfastes dans le monde musulman aujourd'hui de l'absence de cette distinction. J'ajouterais, si vous voulez, que la foi chrétienne nous oblige à sortir de l'individualisme dominant. Nous sommes tous solidaires comme fils et filles de Dieu. Nous sommes tous solidaires en Adam, c'est-à-dire dans le péché, mais nous sommes solidaires en Christ, c'est-à-dire dans le salut. Et donc nous ne pouvons pas nous sauver seuls. Ça c'est vrai déjà au niveau de l'environnement, mais c'est vrai à tous les autres niveaux. Donc là encore, le christianisme nous dit, ne pensez pas qu'à vos petites affaires à vous, dans votre ville, dans votre pays, c'est important, mais voyez ça sur l'horizon global de l'humanité et de son avenir. Si vous ne posez pas les problèmes à ce niveau, eh bien vous risquez de ne pas les résoudre réellement.
Quand vous regardez les années qui viennent, est-ce que vous pouvez nous dire les grands enjeux auxquels l'Église est confrontée.
Les problèmes de la violence entre les hommes, c'est quand même... On pouvait espérer que ce 21e siècle serait tout de même un siècle plus pacifique. Nous avons tellement de moyens de pouvoir vivre une vie heureuse et nous voyons surgir des terrorismes, des violences, des génocides. Et ça, c'est tout de même tout à fait inquiétant. Et je trouve que ça concerne les religions elles-mêmes. Bien entendu, l'islam lui-même, ça c'est aux musulmans à voir les choses, mais je crois qu'on ne peut pas se désintéresser de ce qui s'y passe. Ça, c'est un problème énorme. Puis il y a évidemment les questions de l'environnement, les questions des ressources rares que nous avons gaspillées, parce que nous avons joué aux prédateurs. Donc je crois qu'il y a des choses tout à fait importantes. Et de manière plus immédiate, moi je crois qu'il ne faut pas non plus désespérer de l'Europe. Et on a vite dit avec les flux de migrants, ben Schengen est mort, l'Europe est finie. Je crois que ce n'est pas vrai du tout. Nous avons ici un défi tout à fait gigantesque avec ce flux de migrants. Nous ne pouvons le résoudre que si nous ne replions pas chacun sur nos frontières, mais si nous essayons de faire face ensemble. C'est un problème d'avenir qui doit mobiliser la réflexion et, si possible, quand même, l'acharnement des hommes politiques qui ne devraient pas s'occuper seulement de leur réélection.
Merci.